Si j'avais été un homme du peuple d'Israël pendant les 40 ans où ils ont tourné dans le désert, je suis sûr que j'aurais été parmi les premiers à murmurer. Et je dis ça simplement parce que lorsque j'ai un désert, figurativement parlant, je me rends compte que je murmure très facilement. Alors vous imaginez dans un vrai désert ce que ça aurait pu être. Pourtant, on a l'impression que Dieu conduit souvent ses serviteurs dans le désert. Plusieurs d'entre eux ont été appelés au désert par Dieu. Et là, ils ont rencontré Dieu. On a l'impression que la voix de Dieu est davantage entendue lorsque les autres voix se taisent et que les bruits se taisent. Dans le désert, il semble que l'on entend la voix de Dieu et qu'on peut l'y rencontrer. Cependant, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël pendant ces 40 années dans le désert, ils n'ont pas trouvé ça comme une expérience très romantique. Ils ont murmuré, ils ont protesté, et ils n'ont pas rencontré Dieu aussi souvent que Dieu aurait voulu les rencontrer. Mais bien entendu, si on regardait ces expériences du désert sous un angle différent, c'est-à-dire si on les regardait comme Dieu les voit, elles auraient un sens tout à fait différent pour nous. Je pense à ce texte qui se trouve dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, c'est ce livre qui est une immense parabole de l'amour de Christ pour son peuple. Et au verset 5, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5, il y a cette petite phrase qui est une question. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Qui est-ce? C'est le peuple de Dieu. Et vous voyez l'image de cette épouse au bras de son bien-aimé qui sort du désert. C'est ainsi que Dieu voyait l'expérience de son peuple dans le désert. Le peuple, son épouse, sort appuyé sur le bras du Seigneur et sort du désert pour entrer dans la terre promise. C'est une très belle image. Je pense que cette image, le peuple a manqué pendant ces 40 années dans le désert. Mais l'expérience du désert, où Dieu se révèle comme l'époux pour l'épouse, c'est une histoire qui commence avec Moïse. Cette histoire commence avec Moïse dans un chapitre que vous connaissez bien dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, une histoire que nous connaissons et que j'aimerais regarder avec vous ce matin parce qu'elle me paraît très riche d'enseignements qui nous conduisent directement à la croix de Jésus. Exode chapitre 3, au verset 1er, il est dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » C'est une belle journée, ensoleillée, sèche, comme toutes les journées du désert. Mais cette fois-ci, Moïse doit aller un petit peu plus loin, parce qu'il faut aller un peu plus loin pour trouver à manger pour ses troupeaux. Je ne sais pas si c'est des troupeaux de moutons, probablement des troupeaux de chèvres qui grignotent les épineux, les arbustes dans le désert. Il faut aller un petit peu plus loin pour qu'il y ait de nouveau quelque chose à manger. Et il conduit son troupeau. Il a 80 ans. D'impétueux qu'il était autrefois, il est devenu très philosophe. Et il a le temps de penser, d'admirer les couchers de soleil, d'admirer les montagnes. Oh, il n'y a pas beaucoup de verdure. Et la verdure qu'il y a, il la cherche pour ses troupeaux. Et tout d'un coup, il voit les animaux qui se sauvent. Alors, il faut qu'il aille voir. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de spectacles dans le désert. Alors, quand il y a quelque chose à voir, on va le voir. Et il voit un buisson qui brûle. Et ça, c'est pas nouveau. Des buissons qui brûlent, on en voit dans le désert. Mais celui-là, il est spécial. Il brûle d'une drôle de manière, il ne se consume pas. Et en plus, il parle, ce buisson-là. Et dans ce buisson, une voix lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Mais je suis intéressé par le vocabulaire de ce passage, parce que il nous est dit que Moïse voit là un buisson qui brûle. Mais le mot qui est utilisé ici dit véritablement c'est un épineux, c'est un roncier, c'est pas un buisson n'importe lequel comme on a quelque part par ici. C'est vraiment un buisson d'épines. Et c'est de ce buisson d'épines qu'il va entendre une voix qui lui parle. Mais quand je pense aux épines, je pense à ce que Jésus lui-même a dit à Adam à la sortie du Jardin d'Éden. Regardez ce texte avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, au verset 17, il est dit ceci. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force, à force de peine, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Je comprends que, dès le départ, les épines et les ronces sont une marque du péché qui est rentré dans le monde. Et je réalise tout d'un coup que nous sommes des épineux. Écoutez, dans l'Église, on s'en est rendu compte. On se fait égratigner de temps à autre par les autres épineux qui sont à côté de nous, n'est-ce pas? Et puis nous laissons aussi des égratignures sur les autres parce que nous avons des épines d'un peu partout. Le péché nous a saisis et nous tient. Et les autres s'en rendent compte, à leur dépens aussi, souvent. Mais quand je vois cet épineux qui est là dans ce désert, il m'est dit dans le texte que l'ange de l'Éternel était là, au milieu de ce buisson-là. Pas n'importe quel buisson, un buisson d'épines. Alors je pense à celui qui lui parle, qui est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même, et qui va accepter de devenir lui aussi un buisson d'épines, comme nous, pour pouvoir nous sauver. D'ailleurs, ce que Jésus va dire dans ce passage à Moïse est extrêmement important. « Va chercher mon peuple, fais-le sortir d'Égypte. » C'est le début d'un programme extraordinaire de salut que Dieu introduit auprès de son peuple. Parce que la sortie de l'Égypte est une image du salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, la première chose qu'ils vont faire avant de sortir, c'est célébrer la Pâque. La Pâque, c'est l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette sortie de l'Égypte est une image du salut par la foi en Jésus et c'est Dieu qui sort son peuple de l'Égypte. Grâce au roncier, grâce à l'épineux, grâce à Jésus qui va accepter de venir dans cette nature humaine et être lui aussi un épineux. D'ailleurs, Jésus aimait qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Regardez d'ailleurs ce passage qui est intéressant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, ce texte nous raconte le procès de Jésus. Et il y a là un passage intéressant où deux noms de Jésus sont côte à côte. Évangile selon Matthieu chapitre 26, au verset 63, c'est la conversation de Jésus avec Caïphe. Il est dit, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Le souverain sacrificateur lui demande, « Est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» Il répond, « Oui, je suis le Fils de Dieu, mais je suis aussi le Fils de l'homme qui sera dans le ciel, sur le trône de Dieu. » Jésus aimait ce titre de Fils de l'homme parce qu'il représentait ce qu'il sentait. Il se sentait épineux avec les épineux. Et je retrouve cette image dans le Cantique des Cantiques où nous étions tout à l'heure. Revenez avec moi dans le Cantique des Cantiques. Au chapitre 2 cette fois. En fait, Jésus est devenu lui aussi un épineux, un roncier. Il a pris nos épines parce qu'il voudrait nous délivrer de nos épines. C'est l'objectif qu'il a, c'est de nous délivrer de nos épines. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2 et au verset 2, Le roi l'époux dit ici, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Le Seigneur veut faire de son peuple non pas un buisson d'épines, mais il veut transformer ce buisson d'épines, il veut cette fois-ci transformer son peuple en une fleur. C'est un lys, il n'y a pas d'épines. Le Seigneur les a enlevées. Parce que ce peuple-là, il est l'épouse du roi. Ce roi Jésus qui est venu, qui a pris nos épines, qui s'en est chargé, et qui par ce moyen-là veut nous en délivrer. Je pense à un de ces textes du Nouveau Testament. Permettez que je le lise dans la traduction « Parole de vie ». Premier épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 24, il est écrit ceci. « Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. » C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Il a porté nos épines. Et en portant nos épines, il veut que nous puissions vivre, non plus pour le péché, mais pour lui. C'est le programme que Dieu est en train de proposer ici, à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, dans Exode chapitre 3. Mais l'histoire est intéressante parce que Moïse ne comprend sans aucun doute pas ce que Dieu est en train de lui dire. Il s'étonne de voir un buisson qui parle, et pourtant ce buisson qui parle lui parle de plusieurs manières. Non seulement en parole, mais par le fait qu'il est un buisson épineux lui-même. Autrement dit, cette sainte scène à laquelle nous voulons participer ce matin, c'est pour nous l'occasion de sortir à nouveau du désert, appuyé sur l'époux. C'est l'occasion de sortir du désert et de demander à l'époux de nous débarrasser de nos épines pour que lui les prenne et qu'il fasse de nous des fleurs dans son jardin. Mais Moïse a du mal à comprendre le message que Jésus est en train de lui donner. Alors l'histoire continue et je reviens dans Exode chapitre 3. Vous vous souvenez que Dieu va dire à Moïse, « Va chercher mon peuple en Égypte. » Réponse de Moïse, c'est celle que j'aurais donnée et que vous auriez donnée aussi. Moi, aller le chercher, pas possible. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Va donc demander à quelqu'un d'autre. Mais c'est à lui que Dieu demande. Vous avez remarqué au verset 11 comment Moïse va réagir. Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Qui suis-je? Je suis qui, moi, pour faire ça? Tu me demandes à moi? Tu sais qui je suis, moi? Et c'est curieux parce que, juste après, on a l'impression que le dialogue continue avec Dieu. Moïse lui dit, mais je suis qui, moi, pour y aller chercher le peuple? Et quelques versets après, il dit, oh, mais au fait, t'es qui, toi? Il va demander à Dieu, t'es qui, toi? C'est comment ton nom? Alors on a la réponse de Dieu au verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est en train de lui dire, « Si tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu saches qui je suis. Parce que c'est moi qui vais les sortir d'Égypte. Ce n'est pas toi. » L'important, c'est que tu saches qui je suis. Et je suis un roncier comme toi pour te débarrasser de tes épines. Mais on dirait que ça ne suffit pas. Il va falloir que Jésus fasse vraiment comprendre à Moïse qui il est. Et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas de Dieu une connaissance aussi avancée que vous. Mais Dieu va se révéler à lui, d'abord comme un roncier, comme celui qui est capable de venir, comme nous, prendre nos épines. Et puis, au verset 15, Dieu va continuer et lui dire, c'est le verset juste après celui que nous avons lu, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël ainsi, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Il se présente comme si l'identification qu'il avait faite jusque-là n'est pas suffisante pour que Moïse sache exactement à qui il a affaire. Et c'est vrai qu'il ne le sait peut-être pas tout à fait bien. Et Dieu lui dit, « Mon nom pour l'éternité, ce sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon nom, c'est l'Éternel. » Parce que le mot qu'il a donné, « Je suis celui qui suit », cette phrase intraduisible, est une forme du verbe être qui indique que celui qui porte ce nom-là n'a pas la vie éternelle, il est la vie éternelle. Alors l'appeler en français « l'Éternel » est une traduction parfaite de ce mot-là. Et puis il dit « Non seulement je suis éternel, mais je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Le Dieu de chacun d'entre eux, tes ancêtres. Le Dieu d'Abraham, ce Dieu-là était présent pour l'un, pour l'autre, et pour tous ceux qui sont venus après. Parce qu'il est présent constamment, il est l'Éternel. Mais pourquoi ça s'est arrêté à Jacob ? Dieu est en train de lui dire ici, et c'est Jésus qui parle, le Dieu d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, c'est le père des croyants. C'est avec lui que tout va commencer dans cette affaire. Le Dieu d'Isaac, Isaac, c'est le fils sacrifié, celui qui a été immolé pour les péchés. Le Dieu de Jacob, Jacob, c'est celui dont le caractère a été transformé par l'action du Saint-Esprit et qui a changé de nom. Jésus est en train de se présenter à Moïse comme le Dieu trinitaire. Et nous avons de la difficulté peut-être à trouver dans l'Ancien Testament les trois dimensions de la divinité. Cependant, le Dieu en trois personnes est présent dans l'Ancien Testament. Il se présente ici de cette manière-là, d'une façon très personnelle, pas une idée, pas une énergie, pas une notion, pas un concept, une personne. Une personne, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, un Dieu en trois personnes, un Dieu qui est le Dieu éternel et qui est unique en même temps. Dieu est en train de dire ici à Moïse, avec tout ce que je suis, tu ne crains rien. Va donc faire ce que je te demande de faire. Les épines, Jésus est en train de les porter déjà dans cet événement par lequel il se présente à Moïse. Jésus est en train de lui dire, je suis moi aussi le roncier. Et ces épines, Jésus va les porter comme une couronne sur son front. Une couronne qui sera une couronne d'humiliation à ce moment-là, mais qui est en réalité une couronne de gloire au bout du compte. Cette couronne que l'on a écrasée sur sa tête, couronne d'épines, c'est moi, les épines qui sont là sur sa tête et qui font finalement sa couronne de gloire. Regardez dans l'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le ciel entier reconnaît cette situation par rapport à Jésus. Apocalypse chapitre 5 au verset 12, il est parlé des myriades de myriades et des milliers de milliers qui sont dans le ciel et qui disent d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Le ciel entier donne gloire à ce Jésus qui a porté la couronne d'humiliation, cette couronne d'épines que moi je suis, que l'on a placée sur son front. Mais dans notre histoire, Moïse résiste, vous le savez, parce que c'est une tâche qu'il ne veut pas faire. C'est une tâche pour laquelle, enfin, il se sent inadéquat. Et c'est parce qu'il se sent incapable de le faire que le Seigneur va pouvoir réaliser par lui ce qu'il a à faire. Et c'est vrai que nous sommes des buissons épineux. Mais heureusement, parce que c'est avec ça que le Seigneur veut travailler, c'est avec ça que le Seigneur va travailler, et c'est avec ça qu'il fait, finalement, un bouquet de fleurs pour son royaume. Et Moïse a du mal à y aller, parce que lui sent qu'il n'a aucune puissance. Alors Dieu va lui dire, regarde, tu n'as pas de puissance, c'est parfait, parce que, et permettez ma version de l'Évangile, dit le Seigneur, moi j'en ai à revendre et je vais t'en donner un petit peu. Dans Exode au chapitre 4, Dieu va donner trois signes à Moïse. Trois signes qui sont extrêmement importants, dont il a besoin et dont il ne mesure évidemment pas toute la portée. Mais le Seigneur nous fait la grâce d'avoir le recul du temps et aujourd'hui nous pouvons nous rendre compte que ces signes sont extrêmement significatifs. D'abord, il va lui dire « jette ton bâton, puis reprends-le par la queue parce que ton bâton va devenir un serpent. » Tu as le pouvoir sur le serpent. Le serpent ancien, le diable, Satan. Jésus est en train de lui dire « tu n'as pas la puissance, mais moi je l'ai parce que je l'ai vaincu. » Et tu peux le prendre par la queue, il n'y a pas de problème. Il est sous ton contrôle par la puissance que je te donnerai. Le deuxième signe, c'est la lèpre. Mets ta main dans ton manteau et la ressort, elle est blanche de lèpre. Mais la lèpre, c'est encore une image du péché dans l'Ancien Testament. Alors Dieu lui dit, remets ta main. Et quand il la ressort, la lèpre est partie. Et Jésus est en train de lui dire, j'ai aussi la victoire sur ton péché. Et ton péché, ta lèpre, peut être guérie. C'est ce que fait l'épineux. Et puis le troisième signe, c'est l'eau et le sang, que l'on retrouve d'ailleurs dans la première plaie. L'eau changée en sang. Et bien sûr, il nous vient à l'esprit immédiatement ce texte de l'Évangile où on apprend que le soldat, pour s'assurer qu'il était mort, l'a transpercé avec sa lance, et le texte nous dit qu'il en est sorti de l'eau et du sang. Jésus est en train de lui dire, le sacrifice, pour avoir la victoire sur l'ennemi, pour avoir la victoire sur le péché, il est fait. Le roncier aura la victoire pour toi. N'aie donc pas peur, accomplis cette mission que je t'ai donnée. Les Égyptiens appelaient le Nil le don des dieux. Moïse, de la part de Dieu, va faire connaître à son peuple quel est le vrai don de Dieu. C'est celui qui donne sa vie. C'est celui qui vient comme un roncier, comme un épineux, qui prend mes épines et qui par cela va les détruire. La Sainte Cène à laquelle nous participons aujourd'hui est pour nous le moyen de recevoir à nouveau ce Sauveur, notre Sauveur, et de contempler à nouveau celui qui va porter cette couronne d'épines, parce que je suis cette couronne d'épines sur son front. La Sainte Cène, c'est accepter de nouveau de sortir du désert, comme l'épouse, la fiancée, s'appuyant sur son époux, et qui sort du désert, et qui sort non pas comme une épine, mais comme une fleur. Cette Église qui sort sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, grâce au Seigneur. Amen.